La vie des idées avec Mathieu Bock-Côté.
Chers amis, bienvenue à la vie des idées. La politique est un monde généralement obscur. On voit les hommes et les femmes s'affronter sur la scène publique, mais on parvient bien mal à savoir ce qui se passe dans les coulisses du pouvoir. Toutefois, de temps en temps, un conseiller sort de l'ombre et nous raconte son expérience du pouvoir. Il a exercé le pouvoir, ensuite il décide de l'écrire. C'est à cet exercice que s'est livré Dominique Lebel, ancien conseiller politique de Pauline Marois de 2012 à 2014. Dans son livre, Dans l'intimité du pouvoir, il raconte ses 2 ans passés aux côtés de Pauline Marois dans le gouvernement, le dernier gouvernement du Parti québécois. Dans ce livre, on trouve moins des révélations fracassantes au sens propre du terme qu'un récit bien humain des joies et misères d'un pouvoir qu'on exerce mais qui semble toujours nous échapper d'une certaine manière. On y trouve aussi, en creux, une réflexion sur notre démocratie et sur l'état actuel du Québec. Dominique Lebel aurait-il été un conseiller majeur du dernier gouvernement péquiste de l'histoire? Nous nous permettrons aussi de lui poser quelques questions sur l'état actuel du mouvement souverainiste à la lumière de sa réflexion. Dominique Lebel, bonjour.
Bonjour.
Alors, je me permettrai une première question à propos de votre livre qui paraissait il y a quelques jours aux éditions du Boréal. Vous nous racontez dès le début que vous prenez des notes depuis longtemps.
C'est une habitude. Toujours.
C'est une habitude de prendre des notes.
Ouais.
Et pourtant, quand vous commencez à prendre des notes à l'intérieur, donc au moment où vous servez le gouvernement Marois de 2012 à 2014, vous ne savez pas que vous en ferez un journal politique.
Non, pas du tout, en effet. Je prends des notes, j'en prenais avant la politique et j'en prends maintenant là, alors que je suis de retour dans le monde des affaires. Et puis, c'est une façon pour moi de réfléchir. De structurer ma pensée en écrivant dans des petits carnets, tout ça. Alors, je fais ça depuis toujours, et puis, ça n'a pas été fait dans une idée de publication. Je me disais pas, là, je vais épier une réunion ou je vais prendre ça en note, là, parce que c'est important pour l'histoire. C'était pas du tout. C'est que c'est important pour moi, dans ma propre réflexion, dans mon travail, pour exécuter ce que j'ai à faire.
Mais y a-t-il un moment où vous savez que vous allez publier, j'entends, parce qu'il y a quelques fois, à moins que ce soit le simple plaisir pour soi-même de faire du style, c'est quand même, c'est pas écrit à la manière de petites notes au coin de la table. Il y a quand même un souci stylistique, un souci d'écriture, à moins que vous écriviez naturellement bien, ce qui serait tout à votre honneur. Mais est-ce qu'il y a un moment, quand vous écrivez, où vous dites « Moi, je suis peut-être en train de faire un livre sans m'en rendre compte? »
Non, honnêtement, c'est venu l'été dernier. Je pourrais vous raconter comment la chose s'est produite, mais c'est quand même drôle que durant le temps où je travaillais avec Mme Marois, il arrivait parfois que Mme Marois disait dans une réunion « Dominique, note ça dans tes cahiers. »
Ah oui?
oui, il y avait. Et puis je relate dans le livre là, le cas de député qui, dans le cadre de réunion, disait non, le Dominique, note pas ça. Bon, alors c'était un peu une blague à l'intérieur. Les gens voyaient bien que je prenais des notes. Et puis voilà.
Mais alors, je vous pose la question que vous avez vous-même soulevée. À quel moment et dans quelles circonstances décidez-vous de transformer ces notes en livre?
L'été dernier, je fais énormément de lectures politiques depuis toujours. J'en lis. En fait, j'ai des goûts assez éclectiques. Là,
vous évoquez vos lectures d'ailleurs dans le livre. À quelques reprises, Jean d'Ormesson.
Oui, j'ai des goûts assez éclectiques. Et l'été dernier, en vacances, j'ai lu un des livres. J'ai tout lu ces livres, là, mais un des livres de Bruno Le Maire.
Oui, bien sûr.
Il avait le jour de pouvoir.
Oui,
il était ministre de l'Agriculture. Il avait écrit un livre avant qui s'appelait Le ministre, parce qu'il avait été directeur de cabinet de Dominique de Villepin. Et son livre, Le ministre, m'avait un peu ennuyé. Alors, pour être honnête. Mais son livre, Jour de pouvoir, l'été dernier, j'ai lu ça. Et j'ai dit à ma femme, je pourrais écrire ça. Je pourrais sous cette forme-là, je pourrais reprendre mes cahiers de notes et écrire ça sous cette forme-là. Alors, c'est vraiment le livre de Bruno Le Maire. Parce que ce que j'ai apprécié, c'est le mélange entre la vie privée et la vie publique. Et s'il y a une chose de vraie en politique, puis c'est la difficulté de la politique, notamment sur le plan familial, c'est que ça accapare tout.
Oui, bien sûr.
Même le week-end,
c'est un investissement complet.
Les gens disent non, là, tu racontes dans ton livre là, que tu étais allé en ski, là, donc tu étais en ski. Non. Si ma femme était là, vous direz, Dominique était là, mais n'était pas là en esprit. Parce que la politique, vraiment, c'est quelque chose, on y pense, il y a une tension, qu'est-ce qu'il y aura dans les médias le lendemain, est-ce qu'on a pris la bonne décision l'avant-veille, et puis souvent, il y a de l'activité des partis politiques, le week-end et tout ça, même si moi, je participais pas nécessairement, mais la première ministre y était, etc. Alors, c'est vraiment, ça prend toute la vie. Donc, c'est comme ça, le journal, c'est toute ma vie. Pendant les 18 mois de gouvernement et le mois de campagne électorale.
Quand on vous lit, en fait, dès les premières pages, c'est comme une surprise pour vous, d'une certaine manière, que de revenir aux affaires, que de revenir en politique. Vous aviez déjà été engagé en politique comme militant, ensuite à l'intérieur des gouvernements du Parti québécois. Mais c'est un retour pour vous, presque une surprise. Est-ce qu'il y a une forte hésitation chez vous avant de reprendre du service, ou c'est comme si ça allait de soi?
Non, il y a une hésitation, mais je reviens pour Mme Marois, c'est-à-dire que j'avais déjà travaillé avec Mme Marois à la fin des années 90. On est restés très proches, et alors quand elle m'a offert d'aller à ses côtés lors de l'élection, c'est-à-dire après l'élection de 2012, j'ai décidé d'y aller. En fait, dans la vie, là, à quel moment quelqu'un que je peux considérer comme une amie devient premier ministre du Québec? Alors, pour moi, il y a une question de devoir en même temps aussi. Moi, je crois au service public, là. Ça c'est clair. Quand j'ai fait de la politique la première fois que j'ai quitté, je pensais pas revenir, bien honnêtement. Mais je pensais pas que Mme Marois deviendrait première ministre non plus. Alors, voilà. À l'élection de 2012, là, pour être juste, j'ai participé tout de même à la mi-campagne, à la préparation de Mme Marois pour les débats. Alors, c'était mon seul véritable action lors de la campagne de 2012.
Je me permets de vous amener immédiatement sur le terrain, appelons ça des convictions. Dès la première page, vous évoquez pourquoi vous reprenez du service, pourquoi la politique, c'est-à-dire la question de l'indépendance du Québec. Donc, c'est une conviction qui est profondément ancrée chez vous, manifestement. Et au même moment, on sent dans votre livre, mais peut-être ai-je mal senti, mais que vous savez au fond de vous-même que ce n'est pas ce gouvernement qui fera l'indépendance du Québec. C'est-à-dire, il y a à la fois des convictions profondes, vous voyez peut-être comme celui qui porte le flambeau, qui va passer le flambeau à quelqu'un d'autre, mais on n'a pas l'impression que vous voyez un horizon politique réaliste dans lequel l'indépendance du Québec pourrait se faire. Est-ce que c'est une bonne description de votre état d'esprit? C'est-à-dire servir à un moment où l'histoire n'est pas avec vous, mais on n'a pas le droit de démissionner pour autant.
Non, c'est-à-dire que moi, je pense que qu'il y ait un référendum à un horizon rapproché ou pratiquement plus d'horizon du tout, je pense qu'un gouvernement indépendantiste demeure un gouvernement indépendantiste. Moi, c'est ce que je crois profondément. Et on a vu par le passé que les gouvernements indépendantistes du Parti québécois ont très bien servi le Québec. Alors, ça, là-dessus, j'ai pas de... Sinon, sur une base personnelle... puis je pourrais parler de Mme Marois et l'indépendance. Là, j'imagine qu'on va y revenir. Mais sur une base personnelle, moi, je suis pas pressé. C'est-à-dire que l'indépendance, ça va se faire au moment où les Québécois vont être prêts, puis on va le faire, puis on va le faire ensemble et tout ça. Moi, toute espèce d'alarmisme, là, il faut faire ça maintenant pour ceci, pour cela, ou pour court-circuiter, je ne sais trop quoi. Moi, je crois pas vraiment à ça, parce que à ma connaissance, on va faire l'indépendance pour les Québécois. Hein? On ne fera pas l'indépendance pour une partie des Québécois ou pour. Alors, moi, et pour la faire, la preuve a été faite de mille façons qu'il faut rassembler. Bon, alors, moi, je suis pas dans. Il faut le faire là, le plus vite possible, sinon, tu sais, la question démographique.
Oui, oui, bien
sûr. Il faut faire ça le plus vite possible, sinon la démographie va nous. Ben, écoutez.
C'est une considération stratégique qui se défend néanmoins.
La réalité, là, c'est que si on fait une analyse démographique qui nous dit qu'on ne pourra plus faire l'indépendance dans 5 ans, là, ben, je pense qu'on a un problème avec la question de l'indépendance. On voit ça sous cet angle-là. Parce que on va faire l'indépendance avec l'ensemble des Québécois. C'est pas vrai qu'on va faire l'indépendance rapidement, là, parce qu'on ne pourra plus la faire plus tard. Écoutez, certains vont peut-être me traiter de naïf en disant ça, mais honnêtement, moi, c'est ce que je crois profondément. Moi, je suis pour l'indépendance du Québec. C'est clair, c'est précis, c'est net, mais je veux la faire dans les meilleures conditions possibles.
Donc, il n'y a pas de... Lorsque vous vous engagez, il n'y a pas de sentiment d'urgence, appelons ça. C'est-à-dire, évidemment, on aimerait la faire demain si c'était possible, mais par ailleurs, le réel ne se réduit pas à la poursuite du référendum.
Exactement. Alors, le plus vite possible, mais quand on sera prêt.
D'accord. je lisais, en lisant le livre, j'ai eu le sentiment, mais encore une fois, peut-être me corrigerez-vous, qu'il y a une forme de surprise, c'est-à-dire les péquistes avaient perdu depuis longtemps l'habitude du pouvoir. Ils retournent aux affaires et alors que les libéraux ont 1000 réseaux dans la société québécoise, ou même lorsqu'ils n'exercent pas le pouvoir, ils continuent de l'exercer socialement, économiquement, et il y a aussi le gouvernement fédéral, ils ont des réserves. J'ai l'impression, vous lisant, qu'il y a une forme de surprise, c'est-à-dire que ça faisait longtemps que ça ne nous était pas arrivé et on y va un peu à tâtons. Est-ce qu'il y a eu, dans ce que vous décrivez, est-ce que c'est un sentiment qui est normal en vous lisant, ou est-ce que c'est un peu ce que vous décrivez directement ou indirectement, où le retour au pouvoir allait de soi lorsque vous arrivez en 2012?
Il y a plusieurs choses différentes là-dedans. Sur l'arrivée au pouvoir de tous les gouvernements est toujours un peu compliqué. Alors, c'était le cas avec Philippe Couillard, Jean Charest. Jean Charest, en 2003, ça a été très difficile, son retour. Justin Trudeau, après l'élection fédérale, ils ont publié des petites annonces pour trouver des attaches politiques. C'est quand même incroyable, hein? Mais c'est la réalité. Alors, la question par rapport à l'élection 2012, c'est plutôt la question minoritaire.
Oui, bien sûr.
Alors là, à partir du moment où tu es minoritaire, là, d'une part, ça facilite pas évidemment le recrutement des équipes et tout mettre ça en place, parce que là, des gens vont démissionner de leur emploi pour venir dans un gouvernement et on sait pas trop combien de temps ça va durer. Tu sais, il y a toute cette difficulté là. Mais l'autre aspect aussi, c'est qu'il y avait eu des difficultés au Parti québécois l'année et demie avant l'élection de 2012. Je pense pas que je révèle un grand secret en disant ça.
Le leadership de Mme Marois était très difficile pour elle. Certains sondages même laissaient croire à la possible disparition du Parti québécois.
Ça avait été très, très difficile. Donc, curieusement, puis c'est quelque chose que j'ai réalisé par après, c'est que pour elle et pour son entourage proche là, qui avait fait les années d'opposition avec elle, ce qui n'était pas mon cas, pour eux, là, l'élection même minoritaire, c'était une grande victoire. Ça m'a pris du temps à le réaliser, qu'eux, ils n'étaient pas dans une position de se dire, ben là, on est minoritaire, alors là, on va changer le plan de match. Madame Marois, c'est une volontaire.
Ils n'ont pas l'impression d'avoir un demi-pouvoir.
Non. Et elle, c'est une volontaire. On a été élus. Tout ça, on a un programme. On va faire notre programme. Puis on va leur prouver qu'en faisant notre programme, on va leur donner le goût de nous avoir davantage, etc. Très, très, très volontaire. Un côté naïf aussi, d'une certaine façon. Mais c'est vraiment dans cet état d'esprit-là qu'on arrive. Alors, très rapidement, là, puis ça avait été noté partout dans les médias et tout ça. Des décisions rapides dans les premiers jours, premières semaines du gouvernement et tout ça. Mais c'était ça, l'état d'esprit. On est là, on est fiers d'être là, les gens ont voté pour nous, on va appliquer notre programme.
D'ailleurs, la manière dont vous décrivez Pauline Marois, on dirait que c'est une femme qui est manifestement heureuse d'avoir le pouvoir.
Ah oui.
Je me permets cette distinction et vous me corrigerez. J'ai souvent l'impression que Mme Marois était plus douée pour exercer le pouvoir que pour le conquérir. C'est-à-dire, dans la part politique, il y a des gens, je pense à la française, une figure comme Jacques Chirac, bête électorale, très douée pour conquérir le pouvoir, une espèce d'animal politique de la conquête. Quand vient le temps de l'exercer, la tentation du roi fainéant. Alors que Mme Marois, j'ai l'impression que dans la conquête du pouvoir, la part polémique, la part, on dirait, presque agressive de la politique n'est pas celle dans laquelle elle excelle, mais lorsqu'elle est aux affaires, elle s'y sent naturellement chez elle. Est-ce que vous la décrivez, est-ce que c'est une description dans laquelle vous la reconnaîtriez?
Je suis complètement d'accord. Et ça explique en partie les difficultés de son leadership lorsqu'elle était chef de l'opposition. Alors, c'est pas naturel pour elle de monter au front chaque jour contre le gouvernement, critiquer, etc. Puis Jean Charest était un parlementaire quand même incroyable. Il faut lui donner ça. Alors, c'était difficile pour Mme Marois là, d'avoir le bon ton à l'Assemblée nationale face à Jean Charest, tout ça. C'était très frustrant pour elle. C'était très, très, très difficile. Alors que lorsqu'elle arrive au pouvoir, c'est une autre chose. Puis une des révélations du livre par rapport à la perception que les gens ont de Mme Marois, ce que je crois, c'est que les gens ont plutôt la perception de quelqu'un d'un peu indécis, bon, insécure, je sais pas trop. Et une des révélations du livre, je pense, c'est justement ça, c'est que non, on voit une première ministre là, aux commandes, qui décide, qui mène son conseil des ministres, qui oriente les ministres, moi qui étais particulièrement là à cause de mon passé actif sur les dossiers économiques, là, telle année là. Littéralement, elle avait sa liste, là, puis là, ça, Dominique, là, on n'en a pas reparlé, là, c'est rendu où, cette affaire-là, puis etc. Elle était très, très active, très, très présente auprès du ministre des Finances aussi. Elle avait été elle-même ministre des Finances. Alors, elle exerçait le pouvoir et elle aimait exercer le pouvoir.
Ça, vous parlez d'une femme, effectivement, le portrait d'une femme volontaire sort assez clairement du livre autour d'un enjeu, notamment, dont on a beaucoup parlé, la charte de la laïcité. C'est-à-dire, pendant un temps, on a voulu, à tort ou à raison, faire passer ça pour le projet de Bernard Drinville, hein, qui l'aurait grandi, qui l'aurait coulé, finalement, selon le sort réservé à ce projet par la vie politique. Cela dit, on comprend en vous lisant que Pauline Marois, pour elle, elle tenait profondément à cet élément. Est-ce qu'on peut dire que la charte de la laïcité, telle que vous la voyez chez elle, ça correspondait à des convictions profondes, et si oui, lesquelles?
Oui, tout à fait. Là, là-dessus, ce qui est clair, là, c'est que... Vous savez, en politique, les politiciens se positionnent sur des enjeux ou prennent position. Pour moi, c'est deux choses très différentes.
Alors,
on se positionne sur un axe, là, souvent de façon opportuniste. Là, bon, on va aller, alors, on est plus pour ceci, pour cela. Se positionner sur un axe politique versus prendre position, dire, affirmer une conviction. Sur la charte, c'est très clair. Mme Marois, elle prend position. Alors, c'est pas du tout de question opportuniste ou etc. D'ailleurs, on le voit dans le livre, là. On hésite, là, parce que rendu là, la charte vient pas dans le premier mois du mandat, elle vient beaucoup plus tard dans le mandat.
En août 2013.
Là, on se dit, je relate des discussions internes autour de Mme Marois avec sa directrice de cabinet, Mme Stafford et tout ça, où on se dit, là, très ouvertement, bon, finalement, on reporte ça parce que là, ça va mieux pour nous dans les sondages. Écoutez, l'inverse que ce que les gens ont cru. Les gens ont dit, ils ont fait la charte pour monter dans les sondages. Non, on se disait, il faudrait peut-être reporter la charte. Alors, Mme Marois disait, non, c'est un engagement important, c'est dans le programme du parti depuis longtemps, etc. On va aller de l'avant, puis les Québécois choisiront. T'sais, très, très, encore une fois, très volontaire. Alors, son engagement sur la charte, il provient d'un peu plus loin, là, un moment où moi, j'étais pas en politique, mais où les débats autour des économies raisonnables et tout ça, le Parti québécois avait pris position en ce moment-là. Mme Marois était...
Ben, c'est elle qui représente le retour au nous en 2007.
Oui, tout à fait.
Après le long éclipse post-référendaire autour de l'identité, Pauline Marois, c'est celle qui dit retour au nous, retour à la majorité francophone, retour à un nationalisme ancré dans l'identité et l'histoire. Elle ferme la parenthèse post-référendaire, en un sens.
Elle a fait son lit sur la laïcité très tôt. C'est clair. Et la façon dont moi je vois ça, très simplement, on pourrait le compliquer tout ça, là, mais je pense que de façon très simple, je pense que c'est beaucoup lié à son engagement féministe.
Oui, bien sûr.
En bout de ligne, là, je pense pas que je trahis beaucoup sa pensée en disant que c'est essentiellement le prolongement de son combat féministe.
Il y a, autour de ce débat sur la laïcité, querelle après querelle, il y a polémique. Mme Marois, qui a été contestée dans sa vie, quelquefois méprisée, quelquefois regardée de haut, mais rarement diabolisée, dans ce débat, elle est, avec d'autres, diabolisée. Comment elle, qui est douée pour l'exercice du pouvoir, comme vous l'avez suggéré, comment réagit-elle devant cette diabolisation?
On le sent pas comme ça au gouvernement. Alors, je vois ça, là, que cette image-là a été véhiculée, tout ça. Mais dans la réalité du pouvoir, dans le quotidien avec elle, moi, j'ai pas de souvenir où elle se sentait le pousser dans un coin là, sur cette question-là, ou ostracisée mm-hmm. sur cette question-là. C'était difficile, là. Bon, mais elle n'a jamais douté, là. Je me rappelle pas qu'il serait arrivé un événement là, où elle se serait dit « Oh, là, la charte, faut peut-être voir ça autrement et tout ça. » Non. Et non, je ne pense pas qu'elle se soit sentie ostracisée, ni qu'elle le projet de charte là, était en train d'attiser là, les passions de façon exceptionnelle. Je nie pas là, que ça a soulevé des débats. Mais je vais peut-être surprendre les gens en disant ça, là, mais on n'a pas vu ça comme ça à ce point-là. Et la réalité aussi, c'est qu'il y avait aussi un fort appui à la charte de la population.
Bien sûr, il faut le rappeler.
Et contrairement à ce que la légende peut laisser entendre, pas seulement chez les francophones, les résultats sur la charte, si on fait abstraction de la question indépendantiste, fédérale, si on mélange pas tout, les résultats sur la charte auprès des anglophones et de beaucoup de communautés culturelles étaient plutôt positifs sur la charte.
On a tendance à oublier que, là, effectivement, la charte était ce qui, reçu très positivement par la majorité de la population.
Ben oui.
Désaveu chez les élites, appui massif dans la population. Peu importe ce qu'on appelle aujourd'hui le triste épisode de la charte, et ainsi de suite, selon les formules médiatiquement convenues. Vous avez évoqué la charte, vous parliez tantôt, d'ailleurs, nous l'avons annoncé. Vous avez dit, on va vous parler de Mme Marouet et la souveraineté. Et ça, c'est une chose, quand on vous lit, on cherche à comprendre comment Mme Marouet se pose... Pour reprendre d'autres mots, comment elle se situe par rapport à la souveraineté? Je l'évoquais tantôt, j'ai souvent eu l'impression qu'on était devant quelqu'un qui savait qu'elle ne la ferait pas, mais qu'elle ferait ce qu'il faut pour la faire avancer. C'est-à-dire, au fond d'elle-même, elle ne se voyait pas comme la fondatrice du pays, mais elle ferait tout ce qu'il faut pour garder le projet vivant puis lui faire progresser un peu. Est-ce que c'est une description qui convient bien à sa vision de la politique, de la vision de la souveraineté?
Oui et non. C'est-à-dire que c'était d'évidence qu'on ne ferait pas de référendum sur la souveraineté avec un gouvernement minoritaire. Bon, alors on s'entend là-dessus. Mais on l'a vu durant la campagne électorale, elle voulait pas rejeter l'idée d'un référendum possible dans un prochain mandat. Bon, ça a peut-être coûté la...
Ah oui, ça a peut-être coûté sa réélection.
En tout cas, ça a été difficile, cette position-là, mais c'est la position qu'elle a tenue. Mais il y a deux choses différentes. Il y a les 18 mois de gouvernement et il y a le mois de campagne électorale. Durant les 18 mois de gouvernement, on le voit bien dans le livre, les débats autour de Mme Marois, dans son cabinet, avec des ministres et tout ça, c'est la question, on regarde ça aujourd'hui, ça paraît totalement... c'était ça la réalité. La question qui se posait pendant les 18 mois de gouvernement, c'est allons-nous nous engager lors de la prochaine élection à faire un référendum? Et ça, on voit les questionnements de Mme Marois dans le livre là-dessus.
Bien sûr.
Puis effectivement, elle se dit non. Je me sens pas en mesure de m'engager à faire un référendum parce que je sens pas que la population est là. Okay. Alors, c'est ça le... Bon. Et on voit dans le livre à un moment donné que là, je relate une rencontre avec 7 ou 8 ministres un soir, et puis tout le monde convient à quelques mois de l'élection, ou quelques semaines, non, quelques mois, qu'effectivement, c'est la position à prendre, puis bon, on s'engagera pas à faire un référendum. Donc, ça, c'est comme jamais la question s'est posée dans ces 18 mois-là, allons-nous dire à la prochaine élection qu'on fera pas de référendum? Non, on n'a jamais pensé, on ne l'a jamais vu de ce point de vue-là, parce que c'est le Parti québécois, c'est le programme du Parti québécois, le Parti est indépendantiste, on renierait pas ce que nous sommes, etc. Quand on arrive en campagne électorale, là, on a le vent d'en face, comme le dit l'expression, et là, elle est poussée dans ses derniers retranchements, puis on lui demande de s'engager à ne pas en tenir. Alors, il n'était pas question pour elle d'aller là-dedans. Puis, genre, je dirais une expression très simple, là, Non, la fin ne justifie pas toujours les moyens en politique. Et pour Mme Marois, il n'était pas question qu'en pleine campagne électorale, tout à coup, elle jette sur le côté la question référendaire pour je ne sais quoi, parce que on sait bien que rien n'indique que la campagne électorale aurait été différente. Les résultats auraient été différents si Mme Marois, en pleine campagne électorale, finalement, aurait changé de point de vue sur le référendum. Probablement que ça aurait nuit davantage.
Je vous donne le point de vue à la fois d'un lecteur de votre livre et d'un observateur de la scène politique. Au moment des dernières élections, plusieurs ont eu l'impression d'être surpris. Je reformule. Plusieurs ont eu l'impression que le Parti québécois a été surpris de voir la souveraineté prendre autant d'espace dans la campagne. Est-ce que c'est le cas?
Ouais, c'est comme si c'est comme si l'indépendance, la question de la souveraineté au Parti québécois, c'était un débat institutionnalisé. Alors, il n'y a pas... Nous, les gens ne seront pas surpris que... Tu sais, dans la tête de Mme Marois, les gens ne seront quand même pas surpris que je suis pour l'indépendance. Et puis, on pourra en parler, là, mais Pierre-Carl Pilado vient au Parti québécois. Puis annonce qu'il est indépendantiste. Mais là, c'est parce que...
Ça fait partie de la définition de tâche de militant péquiste.
Est-ce qu'on imagine qu'il serait venu au Parti québécois sans être indépendantiste? Bon, alors... Mais c'est une question très importante. Parce que quand on regarde les résultats de 2012, la question référendaire a été assez présente aussi en 2012. Après 9 ans de pouvoir libéral, je pense pas que je dis là une grossièreté en disant que les libéraux étaient un peu usés
un peu, à peine. En
2012, hein, un peu. Et le Parti québécois arrache un gouvernement minoritaire de peine. Alors, ça prouve la difficulté autour de tout ça.
Alors, Dominique Nobel, nous allons prendre une pause de quelques instants. Et au retour de la pause, nous poursuivons cette discussion autour de votre livre « Dans l'intimité du pouvoir », ce journal politique 2012-2014 que vous venez de publier aux éditions du Boréal.
Vous êtes à l'antenne de Radio-VM.
Chers amis, de retour à la vie des idées pour poursuivre cette discussion avec Dominique Lebel qui signe « Dans l'intimité du pouvoir », journal politique 2012-2014 aux éditions du Montréal. Nous parlions tout juste du rapport à la souveraineté au Parti québécois dans les campagnes électorales et tout ça. Et j'ai envie de me tourner ici non seulement vers l'auteur du livre, mais vers le stratège politique. Il y a, autour d'une question comme l'indépendance du Québec, on a l'impression qu'il y a, appelons ça quelquefois, un contexte historique favorable ou un contexte historique défavorable. Des années 60 aux années 90, on peut dire que la population vibre à la question nationale, que c'est elle qui réussit à soulever les passions politiques au Québec. Est-ce qu'on peut dire, du point de vue qui était le vôtre, c'est-à-dire le stratège, le conseiller, est-ce que vous avez l'impression qu'il est de plus en plus difficile de faire vivre un intérêt pour la question nationale quand on est dans un parti souverainiste? Est-ce qu'il est de plus en plus difficile d'attiser l'intérêt de la population pour cette question fondamentale?
C'est une question difficile à répondre. Et puis, bon, d'abord, moi, je pense qu'il faut voir ça dans le temps long. Mais par ailleurs, moi, je suis pas d'avis que les gens sont moins intéressés par ces questions-là qu'avant. C'est pas si clair que ça pour moi. Je pense qu'on peut se dire que si un référendum était déclenché dans 6 mois, je pense que le taux de participation serait encore pas mal important. Hein, je pense qu'on peut dire ça. Je pense qu'on sera encore à 95%
vous croyez?
Qui iraient voter. Je pense que oui. Okay? Je pense que oui. Bon. Et dans le monde des idées, comme dans la vie en général, y a des modes, etc. T'sais. L'indépendance, c'est pas parce qu'on en parle depuis longtemps qu'elle a perdu sa raison d'être. ou l'idée d'indépendance, puis voyons ça même plus large, l'idée de la place du Québec, de l'émancipation des Québécois, les Québécois dans le monde. On a toutes sortes de débats mm-hmm. sur l'économie du Québec, par exemple. Bon, qu'est-ce qu'on fait avec nos forces économiques, etc. Tout ça, c'est tous des questions de type nationaliste. Mm-hmm. Hein? Alors, moi, je suis pas d'avis que cette question-là a été mise sous le tapis par les Québécois. Mais visiblement, ils ne voient plus ça dans les mêmes termes et de la même façon que plusieurs politiciens continuent de véhiculer le débat.
Je me permets de vous relancer sur cette question. C'est-à-dire, quand vous dites qu'ils ne voient pas ça dans les mêmes termes, non, on s'éloigne un peu du livre pour un instant, mais quand vous dites qu'ils ne voient pas ça dans les mêmes termes, qu'est-ce que vous entendez par là?
Ben, je donne l'exemple de tous les jeunes entrepreneurs québécois, là. Qui crée une entreprise, puis tout de suite, ils créent pas ça pour le marché québécois, ils créent ça pour l'international. Puis parfois, ils vont même travailler quelques années à l'étranger, puis tout ça. J'en ai côtoyé beaucoup, j'en côtoie beaucoup. Je vais vous dire que j'ai jamais senti que ces gens-là étaient moins québécois, là, ou étaient moins fiers d'être québécois, puis étaient des moins bons ambassadeurs du Québec, etc. Même s'ils se disent pas nécessairement indépendantistes ou... Moi, je les sens pas mal nationalistes. Honnêtement, moi, c'est ce que je sens. Une fierté de bâtir des choses à partir de Montréal, par exemple, sur le plan technologique, sur le plan de la nouvelle économie, tout ça à Montréal. C'est incroyable ce qui s'est fait dans les dernières années, là. D'ailleurs, en bonne partie grâce à Bernard Landry et les programmes qu'il a mis en place il y a plusieurs années. Mais, alors, ils expriment pas ça de la même façon. Mais qui dit ce que ce sera dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans. Moi, je pense qu'il y a lieu d'être optimiste pour la suite des choses.
Vous n'avez pas le nationalisme, je dirais, pessimiste, nostalgique ou tragique.
Non, mais voulez-vous bien me dire qu'est-ce que ça nous donnerait?
Oh, la question n'est pas là, la question, hein? Je vous pose la question. On pourrait probablement vous répondre que ça témoignerait d'une forme de lucidité, peut-être.
Mais moi, je suis... La politique de la nostalgie, c'est pas dans ma business.
Vous avez un parcours politique donc qui va avant cet engagement politique. Vous accompagnez Mme Marois dans la campagne électorale comme conseiller, tout ça. Vous le décrivez quand on sent que la défaite s'en vient. Le Parti québécois arrive assez confiant au moment des élections de 2014. Il y a le sentiment que la victoire est non seulement possible, mais même probable. À partir du moment où, dans une campagne électorale, vous êtes son conseiller proche, on sent que on vient d'entrer dans la spirale régressive. Est-ce qu'on se sent capable de renverser la situation ou est-ce qu'on sent que ça nous aspire, peu importe ce qu'on fait?
Bon, dans le cas de l'élection de 2014, ça nous a aspiré. C'est souvent le cas. Puis parfois, ça nous aspire positivement, parfois négativement. Je pense que l'exemple à contrario du nôtre, c'est Justin Trudeau, hein, qui tout à coup, alors que personne ne le voyait là, a commencé par lui-même quelques semaines, quelques mois avant l'élection, finalement, le vent tourne. Et puis, on a l'habitude en politique québécoise depuis quelques années. Quand ils vendent sur un côté, ça vend fort.
Oui, bien
alors,
sûr.
Bon, alors, Mme Marois l'a vécu de façon négative, d'autres le vivent de façon positive. D'autre part, une campagne électorale, on se sent un peu comme le coach du Canadien de Montréal. C'est-à-dire que là, ça va pas bien, puis moins que ça va bien, plus c'est difficile. Bon. Et là, les gens ont toutes sortes de solutions miracles. C'est très, 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 très compliqué. Et puis, il est arrivé un moment, assez rapidement, dans la campagne de 2014, où moi, je crois que les gens ne voyaient plus les programmes électoraux et ont voté sur la question référendaire, point ou presque, là, et ils ne voyaient plus la différence entre le Parti libéral et le Parti québécois. Alors que je pense que c'est honnête de dire qu'aujourd'hui, je pense que les Québécois réalisent que l'exercice du pouvoir d'un parti politique à l'autre, c'est pas tout à fait la même chose.
Le sentiment qu'on a lorsqu'on parle aux gens qui sont pas mêlés à la politique de l'intérieur, donc qui se contentent pas de l'observer confortablement comme moi, mais qui s'en mêlent vraiment comme vous, ou d'autres, certains de vos collègues conseillers, c'est que jusqu'au dernier moment dans une campagne, on a besoin de croire que la victoire est possible. Jusqu'à la dernière seconde, on veut croire au revirement miracle, comme si ce n'était pas possible de donner autant, de s'investir autant, de tout donner ici à la politique si on ne croyait pas profondément sa victoire. Est-ce que je décris bien ici la psychologie d'un stratège de campagne?
Oui, tout à fait. Et parfois, l'impossible se produit. Ça vaut la peine d'espérer, mais les politiciens sont tous faits de cette trempe-là, parce que c'est trop difficile. Alors, si tu crois pas que tu vas gagner, c'est vrai pour les chefs de parti, évidemment, là, comme Mme Marois, là, comment, là, jour après jour, on peut mener une campagne électorale nationale si on pense pas qu'on va gagner? C'est inhumain. Mais c'est la même chose dans les comtés, parfois dans... on a tous connu là, des candidats pour des partis politiques dans des comtés où on dit « Mon Dieu, il n'y a aucune chance de gagner. » Puis, invariablement, ces gens-là, tu leur parles au milieu de la campagne. Ah, « ça va bien. » En plein milieu de la campagne, « Ça va bien. » Je rencontre du monde. Les gens sont gentils avec moi, etc. Je suis bien couvert par mes médias locaux. L'illusion est parfaite. Alors, c'est la beauté et le drame de la politique.
Je reviens un instant à la... l'écrivain que vous êtes devenu en publiant ce livre. Vous êtes en une position paradoxale, à tout le moins difficile. Vous étiez au cœur du pouvoir, vous ne pouvez tout divulguer, et pourtant vous devez en dire un peu pour que votre livre ne soit pas qu'un carnet de confidences intimes. Alors, quel est le critère que vous avez utilisé pour vous dire « ça, j'ai le droit de le dire, ça, je n'ai pas le droit de le dire, ça, je peux le révéler, ça, je ne peux pas le révéler »
Bon, d'abord, j'en dis beaucoup.
Oui, mais j'ai remarqué. Non, et c'est pour ça que je vous le dis. C'est pour ça que je pose la question, parce que vous parlez assez franchement. Vous parlez.
Je parle très franchement, oui, tout à fait. Puis je pense que c'est. Sinon, on ne l'écrit pas.
Ah, mais bien sûr.
Et puis, le pari que j'ai fait, là, c'est vraiment. Je souhaitais que le lecteur vienne à mes côtés pendant 18 mois, puis pendant une campagne électorale. C'était ça mon idée. D'autre part, c'est pas un livre de sciences politiques où on analyse.
C'est un livre de. En fait, si je peux me permettre, c'est un livre assez rare au Québec, mais qui existe ailleurs. C'est-à-dire, moi, ce qui me fascine, c'est même nos hommes politiques n'écrivent pas leurs mémoires souvent. Les conseillers ne racontent pas ce qu'ils ont vécu, alors qu'en France, on peut dire que c'est presque une tradition, à certains égards, qu'on le pouvoir se vit et ensuite se raconte. Non, alors là-dessus, vous faites œuvre de nouveauté de ce point de vue.
Non, mais je pense que c'est un devoir de le faire, là. Puis, on a servi l'État. C'est un témoignage. C'est un témoignage utile pour le présent. C'est un témoignage très utile pour l'histoire. Il y a beaucoup d'exemples en France, mais aux États-Unis aussi. Là.
George
Stephanopoulos, par exemple, avec Clinton, qui l'a écrit, mais alors que Clinton est encore au pouvoir.
Oui, bien sûr. Hein?
Alors, moi, je crois que c'est important de témoigner. Et puis, alors, il y a beaucoup de choses dans le livre. Là où je me suis arrêté, c'est lorsque... Ben d'abord, toutes les questions de confidentialité, de secret du Conseil des ministres, ça va de soi. Bon, ça, c'est pas une question qui se pose, ça va de soi par rapport au Conseil des ministres. Mais pour le reste, c'est... Est-ce que ça sert le récit? Parce qu'en bout de ligne, là, c'est une histoire. Puis, avec des personnages... Des beaux personnages.
Oui, oui, bien sûr.
Jean-François Lisée, Bernard Drainville, Sylvain Gaudreau,
oui, vous avez même l'art de l'assassinat délicat. Le portrait que vous faites du rapport entre Pauline Marois et Daniel Payé, par exemple, c'est tout en délicatesse, mais on n'en ressort pas.
Oui, mais c'est un livre à propos de gens que j'aime aussi en même temps que j'apprécie. Alors, il faut que ça serve, le récit, faut que ça permette de souligner des traits de caractère ou liés à des événements qui sont importants puis qui nourrissent tout ça. Tu sais, c'est ça le. Alors, des fois, on me dit, ah oui, mais là, pourquoi tu as parlé de tel événement? Ben, c'est parce que ça permet de mettre en lumière telle chose. Ah, OK, bon. C'est un peu comme ça que. C'est un peu comme ça que je l'ai fait. D'autre part, moi, pour moi, les élus, c'est des personnalités publiques.
Mm-hmm.
Bon. Alors, je parle pas de la même façon dans le livre des élus que des non-élus, que ce soit des gens de la société civile ou des gens des cabinets politiques. Je les traite pas de la même façon. Pour moi, le travail des élus, même lorsqu'il n'est pas public, il est il est public. Il est fait pour être du public. Moi, je suis en dehors du secret du Conseil des ministres. Pour moi, les politiciens doivent savoir que les propos qu'ils tiennent, les positions qu'ils défendent peuvent se retrouver sur la place publique. Moi, je honnêtement, là, puis, on aime ça parler de transparence.
Vous diraient d'ailleurs qu'on abuse de la transparence en général.
Mais mon livre vient donner une image assez juste, je pense, de l'exercice du pouvoir maintenant au Québec. OK? Alors, ça ressemble probablement à ce que c'était il y a 7-8 ans, puis ça va peut-être être comme ça encore un certain temps. Mais on n'avait pas de ça. Les derniers livres là où on voit vraiment comment ça se passe là derrière les portes closes au Québec, ils remontent à quand même assez longtemps.
On peut passer aux tricheurs, aux naufrageurs de l'Isée.
Ah, mais déjà, c'est autre chose.
C'était pas de l'intérieur.
Pour moi, l'exemple, puis j'en parle dans le livre d'ailleurs là, puis je sais que c'est quelqu'un qui est un personnage controversé maintenant là pour les raisons qu'on connaît, mais Claude Morin.
Oui, bien sûr.
On a écrit un livre qui s'appelle « Mes premiers ministres »,
que vous avez relu d'ailleurs dans le cadre de vos fonctions.
C'est un classique.
Ah, mais Claude Morin est un grand écrivain politique. C'est une plume remarquable, ça,
c'est un livre magnifique et il trace un très beau portrait de l'exercice du pouvoir. Mais ça fait déjà longtemps.
Oui, bien sûr.
Alors j'ai cru que je ferais œuvre utile.
Et je me permets cette petite question bien prosaïque. Ce sont des notes rassemblées et réécrites ensuite pour en faire un livre.
Oui, tout à fait. Et il y a une autre couche qui se rajoute par après. C'est-à-dire que je pars de mes cahiers Moleskine. Et j'ai écrit un premier récit, tout ça, un premier jet. Et la deuxième couche par-dessus ça, pour enrichir la chose, je prends énormément de photos avec mon téléphone. Et c'est merveilleux, elles sont datées, ces photos-là.
Ah oui?
Alors, j'ai une assez bonne mémoire. Alors, une photo d'un événement, là, parfois ça vaut... c'est plus fort que ce qu'on peut écrire dans le cahier. Là. On voit une photo, là, on se rappelle, ah oui, on se rappelle l'événement, de la température. Tu sais, il y a beaucoup d'images qui nous reviennent à partir des photos. Alors, ça, je dirais que ça a ajouté de la texture à mon texte par la suite. Mais puis c'est essentiellement ça. J'ai pas fait des entrevues. Y a pas de recherche pour faire ce livre-là. C'est mon récit personnel, le livre que j'aurais aimé lire.
Je me permets une question prospective à partir de votre livre. Comme dirait Claude Villeneuve qui en a fait la recension, on connaît la fin, on perd. Ce qui est assez tragique, la défaite est douloureusement ressentie. Cela dit, il y a une espèce d'effet catastrophe à la fin. Tout le monde se sent un peu responsable de la défaite, inévitablement.
C'est normal.
Est-ce que vous avez eu, et c'est un peu comme ça que je vous ai présenté avec inquiétude, est-ce que vous avez aujourd'hui l'impression d'avoir servi le dernier gouvernement du Parti québécois, ou est-ce que vous croyez qu'on est, ou je reformule, le dernier gouvernement du Parti québécois, est-ce que vous pensez plutôt qu'on serait dans une période de recomposition politique où les grands partis que nous avons connus n'en sortiront pas indemnes et se transformeront?
J'en ai aucune idée. On peut penser que Mme Marois vient quand même fermer une génération politique.
Ah ben oui.
Alors ça...
C'est les derniers contemporains de René Lévesque.
Ça, on le dit pas souvent, là, mais c'est ça, effectivement. Elle était avec René Lévesque et puis...
candidate à la chefferie du PQ en 1985.
Alors, il y a tout cet épisode-là. Puis même si on va plus loin, même Meech, puis la commission Mélanger Campeau, mais je m'excuse, mais Philippe Couillard, et puis François Legault, et puis Pierre-Claude Péladeau, et tout ça n'était pas là, la commission Mélanger Campeau. Alors, en ce sens-là, elle ferme peut-être un cycle. Peut-être. C'est l'avenir qui nous le dira. Pour le reste, moi, j'aime bien les évidences qu'on aime, qu'on se rappelle pas assez souvent en politique, mais c'est souvent ce qui nous permet d'aller plus loin. Une évidence. pour que le Parti québécois gagne en 2018, il faut qu'il y ait des libéraux, des caquistes, des gens d'Option nationale ou des gens de Québec solidaire, alors des gens qui ont voté pour toutes ces parties-là en 2014 contre Pauline Marois, votent pour Pierre-Carl Péladeau en 2018 pour qu'il devienne majoritaire. Alors là, on va dire que c'est une évidence.
Oui, ça, c'est la première.
Mais c'est important en politique de voir d'où on part. Okay? C'est ça la réalité. Alors, le défi actuel du Parti québécois, c'est là, on additionne comment? Là? On repart ça comment? C'est ça qui est le défi de Pierre-Carl Péladeau qui a, je pense, tout en main pour pouvoir réussir ça. Mais il n'y a pas autre chose. Hein.
Quand on vous lit, vous avez aussi ce souci de l'addition. Ça, c'est très présent. C'est-à-dire, comment devenir majoritaire? Quand le gouvernement du Parti québécois est là, 2012-2014, vers qui, mentalement, se tourne le ton en se disant « ceux-là, on doit les gagner ». Est-ce qu'on pense à la gauche nationale ou à la gauche indépendantiste perdue à Québec solidaire, aux nationalistes de centre-droit pragmatique rassemblés à la CAQ? Qui souhaite-t-on embrasser d'abord?
Ça dépend des jours. Alors, ça dépend des jours. Ça dépend des questions aussi, parce qu'évidemment, on aime ça, la droite, la gauche et tout ça, mais... La vérité, c'est encore la question nationale qui est la ligne de partage des eaux au Québec. C'est ça la réalité. Alors on essaie de nier ça, puis parce que dans les dernières années, peut-être qu'on a moins parlé du projet indépendantiste et qu'il est arrivé des partis de gauche aussi, là, comme Option nationale et Québec solidaire. Je ne sais pas qui est le plus à gauche dans les deux d'ailleurs, mais on en est venu à vouloir là se réinventer une nouvelle ligne de partage des eaux. Ce n'est pas vrai. C'est encore sur la question.
Vous croyez que la question nationale demeure le principe structurant de notre vie politique?
Ben, tout à fait. Moi, je pense qu'il y a des. Je pense qu'il y a toujours des gens. Il y a des dinosaures et des gens de bonne volonté et des innovateurs dans tous ces partis politiques-là en ce moment. Et c'est encore la question nationale qui tranche.
Vous dites que la question nationale tranche encore. À tout le moins, on a vu qu'elle a tranché aux dernières élections. Vous racontez très bien comment l'élection devient un référendum sur le référendum, finalement. Vous avez commencé votre engagement politique, si je ne me trompe pas, dans les années 90?
Oui, autour de... Je pense que le premier grand événement, c'est probablement le Charlottetown.
Ah, mon Dieu, 92!
On dirait que ça fait une éternité, le référendum de Charlottetown.
C'est votre premier engagement.
Moi, je pense que oui.
Et vous avez poursuivi un engagement politique depuis de bien des manières. Et là, vous avez commencé comme militant et vous avez terminé dans le bureau du premier ministre. Donc, vous avez occupé toutes les fonctions possibles du pouvoir ou à peu près, ou à tout le moins de l'engagement. Qu'est-ce qui a le plus changé dans votre manière de voir la politique à travers ce parcours?
Bon, d'abord... Là, je me considère pas comme un militant.
Vous l'avez déjà été.
Oui. J'imagine que je me suis déjà défini comme ça.
Quand on rentre chez le Parti québécois, on est là. On n'est pas militant du tout.
Dans les ailes de la jeunesse et tout ça, oui, probablement. Oui, probablement que c'était un mot qui pouvait m'aller à ce moment-là.
Qui ne vous convient plus aujourd'hui.
Mais non, je me vois pas comme un militant. Là. Je me vois comme quelqu'un d'engagé sur les questions publiques.
D'accord.
Alors, bon, j'ai un engagement... Alors oui, j'ai un engagement politique, mais je ne me définis pas simplement par ça non plus, etc. T'sais, alors, je le vois plus largement. Puis je pense aussi, là, après, c'est une question de personnalité et tout ça, je pense que j'ai toujours eu une certaine distance par rapport aux questions partisanes aussi, bon, etc. Probablement une des raisons pour lesquelles Mme Marois fait appel à moi en 2012, d'ailleurs. Je pense qu'elle souhaitait quelqu'un qui n'avait pas fait l'opposition avec elle.
Oui. Qui ne portait pas les vieilles rancœurs de l'opposition, les rancunes et tout ça.
Je pense que ça en fait partie. Alors, fait que je suis venu enrichir ça. L'autre chose, j'ai un profil économique. Alors, peut-être moins présent au Parti québécois et tout ça.
Bon, pour le dire ici.
Dans son entourage à elle. Et puis voilà.
Est-ce que vous avez aimé gouverner, si je peux me permettre? Vous n'étiez pas évidemment, c'est... vous n'étiez pas celui qui gouvernait, mais vous étiez dans la situation du gouvernement, dans le cœur intime du
l'extension,
pouvoir. Vous avez aimé gouverner?
L'extension de la première ministre. C'est passionnant. C'est passionnant. Et puis, vous savez, dans les dernières années, on a tellement décrié le pouvoir du politique. Ça, moi, pour moi, là, c'est le grand mythe des années 2000. Alors, avec toute la question autour de la mondialisation, mm-hmm. là, on a aimé, puis pour toutes sortes de... là, c'est un grand débat qu'on pourrait ouvrir, là, mais pour toutes sortes de raisons, on en est venu, là, nous-mêmes, les États n'ont plus de pouvoir.
Oui, bien
là,
sûr.
C'est
tout le grand central, récit de la...
Oui, ça oui. se passe au FMI, puis etc. C'est une blague. Si les gens réalisaient l'importance du pouvoir qui est encore entre les mains du premier ministre du Québec et des différents ministres dans les ministères, c'est immense le pouvoir qu'ils ont, le pouvoir qu'on a lorsqu'on est un gouvernement élu pour changer la société. Oui, pour changer la société encore aujourd'hui. C'est comme si nous-mêmes, on s'était convaincus. Comme si on s'était enlevé nous-mêmes ce pouvoir-là. J'entends. Ben, pourquoi les gens font de la politique maintenant? Ça se passe, je sais pas où, à New York, à Londres. Je ne sais pas de quoi les gens parlent. J'ai fait de la politique à quelques reprises dans ma vie. Puis encore entre 2012 et 2014, j'ai été soufflé par la capacité d'action qu'ont encore les gouvernements.
C'est très important ce que vous dites là, c'est-à-dire on a cette espèce de récit très souvent reconduit médiatiquement comme
dépossession.
Bon, bien sûr, le pouvoir, le pouvoir n'existerait plus, le pouvoir serait vide, le pouvoir ne serait plus qu'un artifice. Et vous, le sentiment que vous avez autour ouais. d'ailleurs, ça paraît.
C'est un discours extrêmement dangereux.
C'est un discours qui finalement éloigne les gens du politique.
Tout à fait.
Vous avez aimé exercer le pouvoir. Je me permets de vous poser cette question, peut-être sous le signe du regret, même si ce n'est probablement pas un sentiment que vous chérissez, non plus que la nostalgie ou la mélancolie. Qu'est-ce que vous regrettez de ne pas avoir accompli lors de votre passage au pouvoir, au-delà bien évidemment de l'indépendance politique?
Bon, là, évidemment, moi, je peux pas répondre pour le gouvernement. Là. Faut que vous me posez la question
sur une base
personnelle à
oui,
ce moment-là.
C'est-à-dire vous êtes engagé, vous êtes proche de Pauline Marois, vous avez des dossiers économiques, vous avez un pouvoir immense de conseil, d'orientation. Vous n'êtes pas ministre, mais vous avez le pouvoir immense de l'oreille. Alors, qu'est-ce que vous auriez porté comme dossier supplémentaire, à la fois dans vos convictions politiques et plus largement pour le gouvernement auquel vous apparteniez?
Alors, ma réponse, elle sera pas... elle ne serait pas au niveau d'un projet particulier ou un truc qu'on aurait pu accomplir différemment. Ma réponse va être une réponse humaine.
Bien sûr.
C'est-à-dire, j'aurais travaillé ou je travaillerais plus proche des ministres.
Ah oui?
Ouais, parce que très rapidement, de la façon dont ça se passe, moi, on le sent dans le livre, c'est que les ministres sont dans leur ministère. Hein. Là encore, je dis une grande vérité, mais les ministres travaillent pas au cabinet de la première ministre.
Bien évidemment.
Hein? Ils sont dans leur ministère, parfois à Montréal ou à Québec, et ils viennent au Parlement pour siéger à l'Assemblée nationale. Ils viennent une fois par semaine pour le Conseil des ministres. Le Conseil des ministres, c'est vraiment mm-hmm. ce qui marque la vie d'un gouvernement. Mais sinon... Les ministres sont... Et on a tendance assez rapidement à dire, là, ils font leur travail, puis là, on les appellera pas 8 fois par jour pour des dossiers, tout ça. On laisse aller. Puis, il y a une distance qui se crée avec le temps. Je pense que c'est vrai pour tous les gouvernements. Moi, si je refaisais le parcours, je pense que je servirais encore mieux la première ministre si j'étais encore plus près des ministres. Alors, je ne sais pas comment je réaliserais ça, mais ça, il y a comme un chaînon manquant.
Alors, Dominique Lebel, merci pour ces dernières paroles à propos de votre livre Dans l'intimité du pouvoir, journal politique 2012-2014 qui vient de paraître aux éditions du Boréal. C'est un immense plaisir de vous avoir avec nous. Et, chers auditeurs, à la semaine prochaine pour une autre émission de La vie des idées. Merci.
Merci.